Camille Allary, Les amours buissonnières. Fille d'or. Chapitre 1. Dépêchons-nous, monsieur Dominique, dépêchons-nous, sans quoi rien ne sera prêt. Pensez donc, il est déjà 10h20. Monsieur et mademoiselle doivent arriver avec le courrier de midi et j'ai encore la cuisine à surveiller. Un déjeuner de 6 couverts sur les bras. Ah, Dieu de Dieu, j'en perdrai la tête. Ainsi parlait mademoiselle Léontine au vieux Dominique qui, agenouillé derrière elle, sanglait dans son long tablier blanc, lavait, avec une éponge humide, les sculptures de la cheminée du salon de compagnie. « Ne vous tourmentez donc pas pour si peu !» répondit d'un ton nasillard et sans se déranger le flegmatique Dominique. « Si vous craignez de ne pas avoir assez de temps devant vous, laissez-moi faire les appartements tout seul. Je me donnerai un peu plus de mal. » De cette façon, le déjeuner ne souffrira pas de votre absence. J'accepte volontiers votre offre, reprit la gouvernante en continuant à épousseter le piano, le divan et les chaises. Mais comme je n'entends pas vous laisser toute la peine, avant tout, je demande à terminer ce salon. Comme vous voudrez. Et dans l'appartement, oublié depuis des mois, que le soleil radieux inondait de l'or clair de ses rayons, tandis que le plumeau battait légèrement le velours des meubles et qu'au dehors, très haute dans le bleu du ciel, les alouettes, affolées de sensualité, se renvoyaient des appels de tendresse, le silence recommença à régner, plus lourd qu'auparavant. Depuis que le baron de la Rochetière avait perdu la baronne, emporté à 32 ans par une anémie férocement dévorante, son train de maison était considérablement réduit. Le baron, dégoûté de la vie, anéanti par cette catastrophe qui brisait d'un seul coup ses plus chères espérances, résolut, après ce désastre, de quitter Paris pour aller vivre en campagnard, au fond de la province, à Verbois, propriété qu'il possédait entre Grenoble et Valence, dans un coin heureux de nature, au pied des montagnes de Saint-Nizier. Il donna sa démission de député, vendit son petit hôtel de la rue du Harlay en même temps que ses chevaux et ses meubles inutiles, puis renvoya sa domesticité, ne gardant auprès de lui que Léontine et Dominique, ses deux plus anciens serviteurs, pour lesquels, à cause de leur dévouement, il nourrissait une estime toute particulière. Léontine était, de quelques années, plus vieille que le baron. Fille d'un ancien fermier de Verbois, elle avait pris de bonne heure l'habitude de servir les gens du château. Tous les ans, monsieur et madame de la Rochetière venaient passer la belle saison dans leurs terres. Le plus souvent, afin de ne pas laisser l'hôtel désert, ils n'amenaient avec eux que la cuisinière et la nourrice. C'était sur la rude paysanne au franc-parler que l'on comptait pour remplacer la femme de chambre absente. Petit à petit, Léontine entra dans les habitudes de la baronne et le jour vint où celle-ci, très touchée de ses attentions, ne voulut plus se passer d'elle. Par la suite, elle sut si adroitement conquérir les bonnes grâces de sa maîtresse que madame de la Rochetière, déjà gravement atteinte du mal qui devait la conduire à la tombe, lui décerna le titre de gouvernante et la laissa libre, tout à fait libre, d'administrer la maison à sa guise. D'abord valet de pied à l'époque où son maître, ami des d'Orléans, briguait la députation dans le département de la Seine, Dominique ne fut élevé à la dignité de cocher que lorsque le baron songea à se retirer à Verbois. Ce breton était la personnification du dévouement respectueux. Au champ, comme jadis à la ville, Dominique mettait la main à tout, donnant un coup d'œil à la cave comme au grenier, se métamorphosant tantôt en valet de chambre, tantôt en homme de confiance, ne dédaignant même pas, dans certaines grandes circonstances, de revêtir le frac et la cravate blanche du maître d'hôtel. Léontine et Dominique étaient à peu près du même âge. Leur caractère sympathisait. À un certain moment, cette entente parfaite, ces goûts identiques, avaient fait naître autour d'eux l'idée d'un mariage. Ce devait être la promiscuité de la vie commune qu'il fallait attribuer la cause première de ces bruits, car plus tard, à mesure que les deux principaux intéressés avançaient en âge, il en fut de moins en moins question. Et à la mort de la baronne, la gouvernante, que l'on qualifiait gros comme le bras de mademoiselle, et l'ancien valet de pied, continuèrent à se partager la souveraineté du château et de ses dépendances, veillant à tout, attentieux jusqu'aux scrupules, défendant, en un mot, les intérêts de leur maître avec une ardeur opiniâtre, une âpreté d'économie qu'ils auraient peut-être hésité à mettre au service de leur propre cause. Un autre motif guidait le baron quand, décidé à rompre avec le monde, il avait vendu son hôtel. De son mariage avec la baronne était née une fille, la blonde Diane, l'éclair de joie sainte de sa vie. C'était pour conserver à cet enfant les 15 ou 18 000 francs de revenus qui lui provenaient du chef de sa mère et son patrimoine personnel qu'il avait pris la détermination d'aller s'enterrer à Verbois pour le restant de ses jours. Et puis, comme Diane, pensionnaire des Ursulines, auxquelles il avait confié le soin de former son éducation, habitait Grenoble, il s'était dit qu'il serait plus à même de diriger son intelligence, de suivre ses progrès, en se fixant à proximité de l'endroit où elle vivait. À Verbois, le temps coulait uniformément calme. Monsieur de la Rochetière trouvait, tant bien que mal, le moyen de tuer ses journées. Les études d'économie politique, auxquelles, de tout temps, il s'était livré avec une véritable passion, absorbaient une grande partie de ses loisirs. Il employait le reste à donner des soins aux coupes de bois ou aux cultures, et pendant l'été, à la chasse. Outre ces distractions, le gentilhomme campagnard avait encore, pour l'aider à adoucir la mélancolique monotonie de son intérieur, les fréquentes visites des amis qui représentaient avec lui la société des quatuors de Sainte-Cécile. Ses amis, tous mélomanes distingués, étaient au nombre de trois. Ludovic Berthelin, chef de bureau en retraite du ministère de l'Instruction publique, Prosper Verdier, ancien fabricant de draps, et Claudius Laurence, juge de paix du canton de Sassenage. Berthelin et Verdier habitaient aussi les environs de Grenoble, l'un chez son gendre, à deux pas de Verbois, l'autre plus éloigné, sur la rive droite de la Vance, où s'élevait la tourelle de sa villa. Ces messieurs s'étaient d'abord réunis une fois par mois pour le plaisir de déjeuner ensemble. Mais, comme chacune de ces réunions se clôturait généralement par quelques solos de violoncelle ou de piano, Claudius, d'accord avec le baron dont il était le commensal le plus ancien et le plus intime, avait jeté les bases de l'association des quatuors qui nourrissait le noble espoir de faire revivre la musique de chambre. On se réunirait toutes les quinzaines, à jour fixe, chez Monsieur de la Rochetière. Les sociétaires seraient tenus d'apporter eux-mêmes leurs instruments. On déjeunerait. Après le café, on passerait dans le salon, où chacun prendrait place devant son pupitre, et, jusqu'à l'heure du retour, sans autre satisfaction que celle du devoir accompli, on exécuterait, avec tout le sentiment artistique désirable, les pastorales d'Haydn et les symphonies du divin Weber. Ce programme, sorti du cerveau fumant du juge, fut scrupuleusement suivi. La Société des Quatuors fonctionnait depuis plusieurs années et ses membres, dont, d'un bout de l'arrondissement à l'autre, on se répétait les noms, voyaient croître leur renommée. Les réunions avaient lieu le 1er et le 15 de chaque mois. Ces jours-là, surtout en été, le principal corps de logis de Verbois prenait un air de fête. Dès le matin, le jardinier, à la recherche de quelques primeurs, fouillait tous les recoins de son fruitier. Dans la cuisine, où, ses manches relevées jusqu'au coude, les brides de son bonnet blanc nouées sous la nuque, Mademoiselle Léontine goûtait à toutes les sauces, les fourneaux flambaient, les casseroles de cuivre chantaient, et à l'extrémité de l'aile droite, en face de l'allée des tilleuls, dans le salon bien entretenu, meublé comme au temps du directoire, où se tenaient les fameuses séances, Dominique disposait le piano à queue, la contrebasse et le violoncelle du baron, les pupitres, les cahiers de musique et les quatre tabourets réglementaires. Les sociétaires arrivaient à tour de rôle, précédés le plus souvent par le juge de paix. On passait dans la salle à manger, on fumait un bon cigare en s'entretenant des nouvelles politiques les plus récentes. Puis, une fois les stores du salon baissés et la porte hermétiquement close, les violons de Claudius et de Verdier sortaient de leurs étuis noirs, le juge, en sa qualité de chef, donnait le signal et, doucement bercé par quelques ritournelles bienvenues, les yeux fermés à demi, on se laissait emporter sur les ailes frémissantes de la musique classique. Le juge de paix était l'âme, l'étoile resplendissante de ces réunions. Le mérite de leur organisation lui appartenait. Son humeur joviale, la causticité de son esprit, sa verve endiablée, ajoutaient encore à leur charme. Berthelin, par contre, en devint promptement la tête de Turc. Homme à cervelle étroite, cœur atrophié par l'orgueil, il donnait souvent prise, malgré ses incontestables qualités d'accompagnateur, aux railleries du baron et de Verdier. Claudius, de son côté, faisait à ses défauts, à sa susceptibilité exagérée, une guerre sans merci, et c'était toujours dans la partie sensible de l'amour-propre du pianiste qu'allaient se planter les flèches barbelées décochées par sa malice. On se querellait quelquefois. Des feux roulants de gros mots se croisaient à la grande joie des auditeurs impartiaux. Mais à la séance d'après, tout était oublié et en franchissant le seuil du salon de Verbois, Berthelin tendait la main à Claudius comme si, depuis leur liaison, rien de fâcheux ne l'avait irrité contre lui. Il vint une heure, cependant, où ses distractions ne suffirent plus à M. de la Rochetière. Son isolement lui devenait insupportable. Alors, triste, se sentant vieillir, il fut pris de l'impérieux désir d'avoir sa fille avec lui. Diane venait d'atteindre sa 19e année. Elle avait brillamment terminé ses études l'année précédente. Ce n'était que sur les instances répétées de la supérieure des Ursulines qu'il avait consenti à la laisser, pendant quelque temps encore, auprès d'elle. Il ne comptait faire de sa fille ni un docteur médecin en jupon, ni un bas bleu. À tout événement, mieux valait donc l'avoir à Verbois sous la main. Le baron crut devoir soumettre ses intentions à Claudius, qui s'était fait un honneur de tenir Diane sur les fonts baptismaux, et à l'expérience duquel il avait, d'ailleurs, en toute occasion, recours. « Vous avez, ma foi, parfaitement raison, » répondit le juge. « Insistez pour qu'elle vienne sans retard. Dites que nous ne pouvons plus nous passer d'elle. Il y a, maintenant, en ma filleule, l'étoffe d'une femme accomplie. Ce sera bien le diable si, à nous deux, nous ne parvenons pas à la marier selon elle et selon vous. » Ainsi fut-il fait. C'est au commencement du printemps, l'avant-veille des fêtes de Pâques, jour fixé pour la rentrée définitive de Diane dans sa famille, que s'échangeait entre Monsieur Dominique et Mademoiselle Léontine le colloque que nous avons surpris. Avant l'heure dite, grâce à l'infatigable activité de Dominique, les appartements du rez-de-chaussée et ceux du premier furent prêts. Le vieux domestique descendit, trempé de sueur, mais triomphant. « Vous savez, j'ai terminé » souffla-t-il en entrebâillant la porte de la cuisine devant le fourneau de laquelle, plus absorbé qu'un mathématicien cherchant la solution d'une équation du deuxième degré, Léontine préparait une assiettée de beignets aux fruits confits. La gouvernante le remercia par un sourire et, sans rien ajouter, lui passa du bout de sa fourchette un beignet saupoudré de sucre dont le bonhomme, profitant de l'obscurité qui emplissait le couloir, ne fit qu'une bouchée, puis un verre de vin blanc mousseux qu'il avala d'un trait. Au même instant, traîné par trois vigoureux tarbes aux croupes caparaçonnées de graisse, le coffre jaune de la diligence apparaissait entre les barreaux de la grille de Verbois.